Il y a quelques semaines, Sandra est venue vers moi et puis, enfin, elle est venue vers moi, elle m'a téléphoné, pour être exact. Et puis elle m'a dit, voilà, j'aimerais que il y ait un temps pour la présentation d'Isaac. Alors, je lui dis, bah oui, avec plaisir. Ce sera quelque chose qui est à vivre ensemble, en famille, en église. Et je vois que la famille, a priori, est présente. Donc, même si c'est un moment particulier, mais qui n'est pas forcément très connu, puisqu'on n'est pas dans un temps de baptême, hein, comme dans les traditions, je dirais, catholiques, orthodoxes, même protestantes. Certaines églises protestantes baptisent les enfants, mais on est dans un temps de présentation. Et j'ai envie de dire, présenter un enfant au Seigneur, c'est faire un acte, là aussi, d'alliance. Et je pensais à ça parce que dimanche dernier, samedi dernier, j'étais dans une célébration de mariage. C'est l'année des mariages en ce moment-là. Il y en a beaucoup qui m'ont sollicité pour ça. La question de l'alliance au travers du mariage. Et dans mes propos, je disais dans une très très belle église protestante du centre de Paris qu'il faut être un peu fou pour faire alliance avec Dieu dans le cadre du mariage. Même le mariage est devenu quelque chose qui, dans son essence, c'est un risque qui n'est pas forcément pris par notre société environnante en disant faire alliance avec un homme ou avec une femme de manière durable, c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage. Donc, se marier, c'est un pari sur l'avenir, sur la confiance, sur le lien, sur le travail qu'on va faire pour s'engager dans cette relation-là, dans le temps. Mais finalement, est-ce que présenter un enfant, ce n'est pas aussi un acte d'alliance? Est-ce que ce n'est pas un moment où on dit, ben moi, en tant que mère, moi, en tant que père, je souhaite que Dieu soit présent dans la vie de mon enfant et qu'il pose sa main sur lui. Je reconnais que je suis dépendant de lui aussi, en tant que mère, en tant que père, pour que sa vie soit dirigée, conduite et que la grâce de Dieu soit sur lui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, la présentation d'un enfant? Ce n'est pas un baptême. L'enfant, Isaac, n'est pas encore en âge de dire qu'il croit en Dieu, qu'il veut appartenir à Dieu. Mais c'est un acte de foi des parents qui disent, nous voulons que Dieu dans sa vie soit présent, qu'il le garde, qu'il le protège, et surtout qu'il lui permette de devenir ce qu'il est profondément. C'est ce que je dis aux mariés, au moment de leurs vœux, je leur dis. Si vous faites des vœux où vous vous engagez non seulement à vous aimer jusqu'à la mort, ça c'est le texte bateau, mais faites le vœu que tous vos efforts en tant que mari ou femme sera de faire que l'autre devienne ce que Dieu a prévu qu'elle soit ou qu'il soit. Parce que ça, c'est votre travail. Ça, c'est votre engagement. Et tout à coup, ça fait réfléchir. Ah ouais, qu'est-ce qu'on est prêt à aimer l'autre et puis à le dire. Mais est-ce que je suis prêt à faire que l'autre devienne? Est-ce que je suis prêt à mettre autant d'efforts pour que l'autre devienne que je peux en faire pour moi-même? Et cette parole de l'Évangile qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, elle prend tout son sens là. Tu es. J'ai envie de dire quel est mon plus proche prochain. Je ne sais pas dans la famille de Guillaume et Sandra qui est en couple ou pas, mais dans l'église, j'ai une petite idée quand même. Je dis, est-ce que mon plus proche prochain, c'est le pasteur? J'espère, j'aimerais bien. Mais non, 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 je ne suis pas votre plus proche prochain. Je sais que chez les Touliou, ça va être l'autre Touliou qui va être son plus proche prochain. Et l'église, elle commence là. Et quand on parle de l'alliance que l'on peut faire en présentant un enfant, on est bien dans une dimension de l'Église qui est la pierre, je dirais, essentielle, la famille. Et l'effort que Sandra fera toute sa vie durant en présentant cet enfant au Seigneur, que Guillaume fera en disant que je m'appuie sur toi, leur effort sera de faire qu'Isaac, comme Kézia, deviennent ce que Dieu a prévu qu'il ou qu'elle soit. Alors quand Sandra m'a interpellé en me disant, voilà, Je voudrais la présentation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais choisir comme texte? Il y a toujours une prédication dans un culte, et je rassure mon aile droite par rapport à ceux qui sont en face, parce qu'ils savent qu'une prédication, en général, c'est 40 minutes. Donc, rassurez-vous, j'ai décidé que ça sera au moins divisé par deux. Mais une prédication, c'est quand même une parole de Dieu pour nous exhorter, nous encourager, nous parler. Qu'est-ce que Dieu veut? Et puis, je dois avouer que j'ai fait un raccourci très, très simple, vous dire, il ne s'est pas fatigué, il n'est pas allé chercher moi. Ben, j'ai décidé de parler d'Isaac. Au moins, je sais que les parents vont se dire, ah, je me rappelle, à la présentation, il a parlé de quoi déjà? Ah ben, d'Isaac. Il s'est passé, il y a 3 ans, un épisode un peu curieux. Je suis passé au stade de retraité, et puis j'avais laissé de côté, par manque de temps, ma carte de bibliothèque à la médiathèque de Kevin. Et puis je me suis dit, bah, là, je vais avoir beaucoup plus de temps. C'est ce que j'ai cru. Et puis, je me suis réinscrit à la médiathèque de Kevin. Et puis, la deuxième fois où je suis retourné pour rapporter les livres, je suis passé dans les couloirs, et puis il y avait le rayon religion. Et dans le rayon religieux, il y avait, vous savez, il y a toujours ces tablettes où on met les dernières sorties, puis les livres qui sont un petit peu mis en avant. Et puis, je vois un bouquin. J'étais venu en vélo, j'ai regretté après. J'ai vu un gros bouquin, il devait bien faire dans les 4 kilos. En général, je n'évalue pas un livre à son poids, plutôt au contenu. Mais là, la couverture, c'était la Bible, les textes fondateurs. Je dis, tiens, dans une médiathèque, la Bible, les textes fondateurs, de quoi ça peut parler? Puis j'ai ouvert et je suis tombé, en ouvrant à la médiathèque, Isaac dans la Genèse. Je dis, un texte fondateur qui parle d'Isaac. Dans mon esprit, Isaac, ça a toujours été un personnage un petit peu transparent. Le papa d'Isaac, c'est Abraham. Abraham, c'est le père de la foi pour les 3 grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Et puis, tout ce qu'on sait vraiment d'Isaac, c'est que Dieu a annoncé à Sarah puis à Abraham qu'ils auraient un enfant. Et puis, comme Sarah avait des problèmes pour enfanter, elle s'est dit, bon, je vais avoir un enfant, mais on est âgé, etc. Donc, elle a mis, ce qui était la coutume à l'époque, son mari en relation avec sa servante pour enfanter un enfant qui a donné Ismaël, l'ancêtre des populations arabes, dans la tradition. Hein. Et finalement, quelques mois après, elle tombe enceinte. Enfin, je ne sais pas si le mot « tomber enceinte » est vraiment bon. Elle porte un enfant. Et à ce moment-là, antagonisme entre Sarah, sa servante, puisque le fils aîné, même s'il n'est pas héritier d'Abraham, bah, c'est le fils de la servante. Et moi, Isaac, là-dedans, on n'en parle pas beaucoup. Sauf qu'il y a un épisode, quand il devient jeune homme, où Dieu dit, il avait donné à Abraham une promesse qu'il serait une grande nation, etc. Il a un fils, et Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Oula, dis-moi alors. Dans l'obéissance, il monte sur le mont Morija, et puis là, il s'apprête à sacrifier son fils. Puis au moment où son bras s'élève avec son couteau, là, Dieu l'arrête, et puis il dit, non, je vois bien ton obéissance et ta foi. Et là, dans les buissons, il voit un bélier dont les cornes sont prises. Il dit, sacrifie-moi ce bélier. Puis après, moi, Isaac, je l'ai un peu oublié, je veux dire, dans 50 ans de lecture de la Bible, je me suis dit... Et quand j'étais dans la bibliothèque, je lisais, je dis Isaac comme un texte fondateur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis finalement, j'ai redécouvert les quelques passages qui parlent d'Isaac. Et j'aimerais vous le laisser, notamment à Guillaume et à Sandra, parce que j'ai redécouvert que dans l'écriture, Isaac avait un rôle éminemment important, notamment dans la conception de ce qu'est la famille et l'engagement de l'individu dans sa famille. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, verset 12, il est parlé d'Isaac. Et il y dit ceci, « Isaac fit des semailles dans le pays, il récolta le centuple de cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits, de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins, qui étaient la population autour de lui, furent jaloux de lui. » tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, ils ont été comblés par les Philistins en les remplissant de terre. Les Philistins, en colère, ont dit bah, « il a des troupeaux, etc., on va lui casser les pieds ». Hop, on remplit les puits de terre. Et Abimélec, c'est le roi des Philistins, mais c'est un titre, ce n'est pas le nom. Abimélec, vous comprendrez pourquoi, dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Souvenez-vous de ce nom ? Où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il appela le puits Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Essek en hébreu, ça veut dire tout simplement « querelle, dispute ». Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna, un nom qui est en lien avec un autre nom qu'on trouve dans la Bible, c'est Sitna, S-T-N, Satan. Ouais. Il appelle un puits Sitna, c'est-à-dire adversaire, l'adversaire, celui qui vient contre nous. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Voilà un épisode que nous trouvons dans, pour décrire la vie. Il n'y a pas grand-chose d'autre que ces histoires de puits qui sont creusées, auxquelles il donne des noms. Il creuse d'abord, il redéblaye, il remet en place les puits de son père, et puis il va en creuser d'autres, etc. On dit, est-ce que c'est vraiment un texte fondateur des trois religions monothéistes et qui nous parle de quelque chose d'essentiel ? Ben oui ! Finalement, en le relisant, on se dit, mais c'est évident. Et en fait, la première chose qu'on peut évoquer dans cette vie d'Isaac, c'est le parallèle qu'il y a entre lui et son père Abraham. Quand vous lisez quelques chapitres précédents, ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et les choix qu'il a faits, les attitudes qu'il a eues, au chapitre 12, verset 10, je vous le fais rapide, en accéléré, il est dit qu'il y a eu une famine, qu'Abraham part en Égypte, c'est-à-dire dans un pays en dehors du pays de la promesse. Sa femme Sarah est belle. Il la fait passer pour sa sœur en Égypte. Et Abraham prospère. Et tout à coup, évidemment, comme le pharaon s'intéresse à la femme d'Abraham, il est maudit et lui arrive des problèmes. Où ? Chapitre 12. Chapitre 20 de Genèse, quand Abraham quitte l'Égypte et part dans la contrée du Midi, ce n'est pas le Midi de la France, c'est le Midi de là-bas, il s'établit entre Kadès et Chour, et il fait un séjour à Guérar, là où Isaac a eu des problèmes. Abraham disait, vous allez voir qu'Abraham, ça a beau être le père de la foi, il y a des fois, il était un petit peu... Quand il s'installe à Guérar, il se dit, ouais, mais ma femme, elle est belle. Je vais avoir des problèmes. Donc, au roi de Guérar, qui s'appelle Abimélec, ce n'est pas le même que celui d'Isaac, c'est un titre. Abimélec, ça veut dire « mon Dieu est roi » ou « mon père est roi », roi de Guérar. Alors, Abraham dit « c'est ma sœur, vous inquiétez pas ». Il a tellement peur qu'il ait des ennuis à cause de la beauté de sa femme. Alors, Abimélec fait enlever Sarah, et lui et sa famille sont maudits, ils tombent malades, etc., jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de son erreur. À deux reprises, Abraham utilise le même stratagème, faire passer sa femme Sarah pour sa sœur, par peur que la beauté de sa femme ne lui attire des problèmes. Alors, cet homme qui est considéré comme le père de la foi ne semblait pas, pour le coup, très sûr de lui, et peut-être aussi pas très sûr de Dieu, pour tricher de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on vient de lire dans le Genèse, chapitre 26 ? Il y eut une famine du temps d'Isaac, il y eut une famine dans le pays, tiens, comme du temps de son père. Isaac part s'abriter au pays des Philistins à Guérar, pas en Égypte, lui, au moins il a compris, dans l'Égypte, on va rester dans le coin. Ouais, mais Isaac il dit, ouais, mais ma femme Rebecca, elle est quand même très belle. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait passer Rebecca pour sa sœur. On dit, tiens, il n'y aurait pas des mauvaises habitudes. Le roi des Philistins, Abimelech, le titre de ce roi, est attiré par Rebecca, mais il s'aperçoit à temps qu'Isaac lui a menti. Et c'est lui qui dira, peu s'en est fallu qu'on ne pêche en touchant ta femme. Et donc, il fera un décret royal pour protéger Rebecca de possibles agressions. Alors, je vous raconte tout ça parce que j'ai envie de dire que Abraham a bien sûr menti en prétendant que Sarah était sa sœur dans ces deux passages de la Genèse, et puis Isaac a fait de même. Et ça me fait penser à ces histoires de famille. Vous savez, ces trois épisodes de la Bible où Abraham et Isaac font les mêmes erreurs, eh bien, ça souligne que, si on en doutait, que nos vies ont la fâcheuse tendance à emprunter les chemins et les pas de ceux qui nous ont précédés. On est parfois habité par les habitudes, les croyances, les comportements de cette nature. Et si nous étions un tant soit peu attentifs pour discerner les répétitions de scénarios de vie ou ce que nous prenons pour des coïncidences caractéristiques de notre lignée, nous pourrions peut-être échapper à ces schémas qui semblent inéluctables ou des comportements qui génèrent les mêmes effets désastreux génération après génération. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Écriture. Ah, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était protestante jusqu'au bout des ongles, qui était une des psychothérapeutes, certainement, qui a eu une renommée internationale. Elle est décédée il y a 3 ans. Anne Ancelin Schlüsselberger écrivait ainsi que « Nous sommes finalement, d'une certaine façon, moins libres que nous le croyons. » Mais, ajoute-t-elle, « Nous pouvons reconquérir notre liberté et sortir de la répétition en comprenant ce qui se passe, en saisissant ces fils dans leur contexte et dans leur complexité. Nous pouvons enfin vivre notre vie, et non celle de nos parents, de nos grands-parents, d'un proche disparu que nous allons remplacer à notre insu. Il y a une possibilité de liberté. » Et ça, ce parcours d'Isaac est dans cette nature-là, le chemin d'un homme qui s'affranchit du passé et s'approprie et son présent et son chemin. Il n'est pas tributaire de son histoire familiale. Alors, comme le dira Anne Ancelin Schlüsselberger, elle était spécialiste des thérapies transgénérationnelles, il est toujours possible, alors j'aime beaucoup cette phrase qu'elle a dit dans un livre qui est un peu le plus connu de Schlüsselberger, c'est « Aïe, mes aïeux ». C'est vrai que mes aïeux, ils m'ont déposé sur les épaules un poids du passé que je dois aussi régler. Et elle dit ceci, il est toujours possible de saisir sa chance, de chevaucher son destin, de tourner le sort défavorable et éviter le piège des répétitions transgénérationnelles. C'est toujours possible. Et notamment, on le voit avec Isaac, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, qui ne sont pas les promesses faites à mon père, mais qui sont les promesses qu'il veut pour ma vie, à moi. Et Isaac, il a saisi ça. J'espère que pour les parents d'Isaac, ils lui donneront la possibilité, alors j'aime cette phrase, ils lui donneront la possibilité de saisir sa chance, de chevaucher son destin et de tourner le sort défavorable et éviter les pièges des répétitions des histoires familiales. Les Philistins, dans le récit d'Isaac, comblent et remplissent de terre les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés. C'est-à-dire qu'ils font, ils essayent d'effacer l'histoire d'Abraham et le bien dont Isaac pourrait bénéficier. Tous les puits sont comblés, remplis, etc. Ils disparaissent un petit peu du paysage. On a la même situation au niveau de l'égyptologie, puisqu'on voit que lorsqu'un pharaon monte sur le trône, quel est son premier travail ? Il efface au burin toutes les traces des noms des pharaons sur les monuments avant lui. C'est pour ça que pour les égyptologues, parfois, quand ils sont devant des monuments, ils disent « Mais alors, celui-ci, c'est à qui ?» Parce que c'est gommé, effacé, etc. Puis il y a le nouveau roi qui met son nom, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Or, quand Dieu parle à Abraham, il dit, en parlant de lui, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui » de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. En fait, la transmission là, qu'Abraham a reçue, il dit, c'est des choses importantes pour moi. Et présenter un Isaac aujourd'hui dans ce lieu, c'est des parents qui disent, les promesses que Dieu nous a faites à nous, nous voulons qu'elles s'accomplissent aussi dans nos descendants, au milieu de nos enfants. Isaac creusa les puits de son père Abraham. Ça veut dire que quelque part, une des premières tâches d'Isaac, ça a été de déboucher tout ce qui était, ce qui venait de son père et qui était bon. Il s'est mis en route pour le faire réapparaître. Isaac creusa les puits de son père et les appela du même nom que son père les avait appelés. C'est-à-dire que quelque part, je sais que c'est très à la mode dans notre société aujourd'hui, il y a un devoir de mémoire. Il y a un devoir de se rappeler de ce qui a été bon. Hein? Dans la mesure où, dans les relations qui ont existé, il y a aussi des principes de justice et d'équité au sein de la famille. C'est clair que s'il n'y a pas ces principes de justice et d'équité, on ne va pas aller chercher ce qui n'existe pas en termes de bonnes choses, de bon héritage. Mais ces relations, quand elles sont sur la base de la justice et de l'équité, c'est aussi reconnaître que ce qui a été, c'est quelque chose qui m'est légué par mes ancêtres et que j'ai à transmettre à la génération à venir. Et je suis certain que c'est, pour Guillaume, l'héritage breton, ouais, hein, et pour Sandra, l'héritage du Ghana. C'est ça, hein. Je ne voulais pas me tromper de pays. Mais il y a dans leurs deux héritages, comme pour Isaac, quelque chose qui parfois a besoin d'être remis à la lumière. Il faut creuser pour dire, ça, ce sont des bonnes choses de moi. Et éviter que Isaac n'ait que des bonnes choses bretonnes. Que le kouign-amann et les crêpes. Je suis réducteur, je sais. Mais aussi de lui dire, tes racines, elles sont là. Et Dieu veut te bénir en te disant qui tu es et quelles sont les richesses de ta vie. Dans les pays de l'Est, en Europe centrale, comme en Russie, par exemple, chez les Slaves, la famille est considérée comme un atome social, très fort, un nid, un clan soudé, une matrice à partir de laquelle on se construit et on trouve son identité. Si vous relisez notamment le chapitre 54 du livre d'Ésaïe, vous trouverez ce principe à partir du verset 2. Élargis l'espace de ta tente, c'est-à-dire agrandis-toi afin que cette matrice-là soit remplie du sens que je te donne dans ton identité à toi et dans celle de ceux qui seront après toi. Alors, moi, je suis un amoureux de la poésie et un des poètes que j'ai appris à aimer, c'est Omar Khayyam. Alors, il n'est pas très connu en France, Omar Khayyam, mais c'est un poète qui était mathématicien, un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge. C'était un astronome, etc. C'était un génie. Et il y a un petit poème qui parle de cela, du respect que l'on a à ceux qui sont passés avant nous. Et dans les Roubayats, c'est des quatrains, il dit ceci. Vieil homme, lève-toi à l'aube et considère là-bas ce jeune enfant qui chasse la poussière. Donne-lui des conseils. Dis-lui de balayer doucement ce qui reste des rois de la terre. Moi, j'aime. J'aime parce que c'est dire, il y en a avant nous, ils ne sont plus là, ils ne sont que poussière. Mais dis à l'enfant qui est là et qui balaye, fais-le doucement et avec respect, parce que cette poussière, c'est les rois de la terre qui t'ont précédé. Et j'ai envie de dire qu'il soit transmis à la génération suivante ce respect de ce qu'il y avait avant. Je ne connais pas la famille de... Si, j'ai vu le beau-père de Sandra. Je ne connais pas, je n'ai pas le bonheur de connaître sa maman ou de ceux qui ont précédé, mais il y a là quelque chose de précieux qui est à transmettre. L'Éternel, dit Dieu dans le Deutéronome, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. J'ose dire que ce passage de Deutéronome, pour Sandra et pour Guillaume, s'il y avait un verset, c'est de vous dire « L'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur ». C'est vraiment l'attention d'un père sur vous, comme il prenait plaisir à celui de vos pères. Je ne sais pas s'il y a le papa de Guillaume, parce que je ne le connais pas, qui est là. Il est où ? J'ai failli dire que ça doit être lui, parce que rien qu'à voir la bouche, j'ai dit, ça, il ne doit pas être loin de Guillaume dans la famille. je reconnaissais un peu Guillaume. J'ai dit, voilà. Dieu prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de ton père ou de tes pères. Alors, dans ce récit, on voit que d'abord, Isaac débouche les puits de son père et leur donne les noms qu'ils avaient reçus d'Abraham. Quelque part, il y a un respect de ce qui a été fait par son père. Il y a de l'importance à donner du respect à ce que nos précédents ont déposé. Alors, même si certains ont eu des parents, je dirais, qui n'étaient pas forcément dans la dignité ou dans l'amour, mais il y a dans ceux qui nous ont précédés, au sens plus large, un héritage que nous avons reçu. Je parlais avec quelqu'un cette semaine du fait que moi, j'ai toujours considéré que mon père, je n'ai jamais connu, j'ai connu un mois et une semaine et un jour quasiment dans ma vie. Et puis je l'ai rencontré plus tard quand j'ai eu mon propre fils. Et dans mon histoire, je considérais que c'était un Vietnamien qui a croisé la vie de ma mère, etc. Et je me disais, bon, qu'est-ce qu'il m'a donné comme héritage ? Il ne m'a pas élevé, il ne m'a pas fait grandir. Et puis, j'étais à un séminaire en addictologie à Paris, et tout à coup, il y a des scientifiques qui sont intervenus en parlant de l'inégalité des races par rapport à l'alcool. Je savais qu'il y avait inégalité entre l'homme et la femme, au détriment de la femme. Physiquement, physiologiquement, les femmes basculent plus vite, du fait de leur physiologie, dans la dépendance. Mais les ethnies, et tout à coup, il dit, oui, par exemple, les races asiatiques, les populations d'Asie n'ont pas la même capacité au niveau hépatique pour dégrader la molécule alcool. Ah, moi, je tombais des nues. Ah, donc, on n'est pas égaux. Ben, je comprends pourquoi les Français, ils peuvent... Et puis que moi, dès que j'ai bu une bière, je ne suis pas bien. et ça fait son chemin. Et j'ai compris plein de choses dans ma vie. Quand j'ai fait mon service militaire, je me suis rendu compte que tous mes copains buvaient 7, 8, 9 bières le soir. Et ils tenaient encore debout. Moi, j'en prenais une et je me sentais un peu flagada. Je dis, mais c'est pas juste. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais un héritage. Mais cet héritage, sans que je le sache, m'a protégé. Il m'a évité de basculer dans des excès. Etc. Je n'ai jamais été ivre parce que une demi-bière, je suis déjà un petit peu parti, donc je ne vais pas plus loin. Mais ça m'a protégé. L'héritage de mon père, sans que je le sache. Alors, Isaac, il a donné des dons, il s'est rappelé de ce que son père ou de ce que son ancêtre avait été pour lui. Il y a des serviteurs qui creusent encore, ils trouvent un puits d'eau vive. Celui qu'ils ont baptisé querelle ou dispute. Et puis finalement, c'est un puits d'eau vive. Pas d'eau de vie. Faut que je précise avec les Bretons présents, c'est de l'eau vive. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans le texte hébraïque, c'est la chayim, à la vie. C'est-à-dire que en creusant, en reprenant ce que son père lui avait transmis, il a à nouveau mis en place cette même démarche de creuser pour lui. Et je dirais, quelque part, ça renvoie au fait que nous avons non seulement à nous rappeler ce qui nous a été transmis, mais aussi à se mettre au travail pour trouver la vie et nos sources à nous. Qu'est-ce que tu fais pour toi ? Quelles sont les sources que tu vas explorer, que tu vas mettre à jour pour nourrir ta vie, pour être en relation avec ton Dieu ? Pas le Dieu de ton père, le tien. Et donc, ils ont trouvé une source d'eau vive. Je ne sais pas quelle caractéristique, est-ce qu'elle était ferrugineuse, comme dirait Bourville, ou est-ce qu'elle était, semblable à la source Perrier, je ne sais pas, avec gazéifié et tout, mais c'était une source d'eau vive. Et en fait, je trouve ça c'est un petit aparté, quand les Juifs trinquent, ils disent « l'achaïm », ça veut dire
à ta santé, à la vie, à la vie. Et en fait, c'est la même chose que les Bretons. Yermat, c'est à ta santé. Pouvons-nous, dans notre démarche, prendre soin aussi de nous en allant creuser, non pas seulement ce qui nous vient de nos pères, mais nos propres sources d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Voilà. Alors, il y a des serviteurs qui creusent un puits, on leur cherche un nouveau querelle, ils l'appellent Sitna, c'est-à-dire Satan. C'est-à-dire que chercher des choses pour soi, il y a toujours un adversaire qui va se mettre en face en disant « Mais que tu t'épanouisses n'est pas ma priorité, ça ne me plaît pas que tu t'épanouisses, que tu sois bien, que tu trouves la paix. » Et donc, il y a toujours des adversaires en face dans notre environnement qui disent « C'est pas normal que tu t'épanouisses et que tu trouves la vie. » Et donc, est-ce qu'on peut malgré tout continuer à creuser dans ce qui est essentiel pour nous ? Puis enfin, le dernier puits, il l'appelle Rehoboth, et ça a un sens profond. Ça va aussi dans le même sens. Rehoboth, c'est la largeur. Alors pourquoi ils l'appellent comme ça ? C'est parce qu'ils disent, maintenant qu'on a trouvé la source d'eau vive et une source qui va nourrir, abreuver notre vie, on va être mis au large. Et quelque part, c'est la pensée de Dieu. Alors, j'avais envie de partager ces choses parce que quelque part, la présentation de cet Isaac-là, c'est aussi une présentation pour que tous ces messages qui nous sont transmis par Isaac du livre de la Genèse, et finalement j'ai découvert qu'effectivement c'était des textes fondateurs, deviennent aussi une réalité dans la vie de cet enfant. Alors, je vais demander à Sandra, à Guillaume, de s'approcher. Puis on va leur faire de la place, on va dégager au moins deux chaises. Vous pouvez vous décaler par là ? Merci. Vous pouvez mettre la sacoche là, sur la salle.